Qu'est-ce que ça signifie, Jacques?
Attends que je trouve mon dictionnaire.
Je vais vous donner, je vais vous donner un raccourci. Jacob, ça signifie quoi? Exact. Jacques, c'est exactement la même racine. Pourtant, il est appelé Jacques le Juste. C'est intéressant. Mais j'aime ça parce qu'en fait, il a décidé, c'est ce que j'ai parlé dans le chapitre 1, il a décidé déjà de choisir son identité, de ne pas laisser la famille, le monde, l'identifier. Nous avons aussi un peu l'exemple contraire. Zachée, ça signifie quoi? Le juste, le pur. Il était tax collecteur. Il vivait, donc il avait son identité de juste, de pur, mais il ne vivait pas il ne vivait pas dans la justice jusqu'à qu'il rencontre le Seigneur. Mais j'aime beaucoup parce que le monde, ça c'est juste le raccourci du premier verset. Le monde nous attribue une identité naturelle. Nous avons le choix, en tant que peuple éclairé, en tant que peuple avec un nouveau cœur, une nouvelle pensée, nous avons le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Je vais vous donner un exemple. En fait, il y a pas mal d'exemples. 1 Samuel chapitre 25-25, je vous lis le verset. « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom indique. » Nabal est son nom. Il y a de la folie chez lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que le Seigneur a envoyés. Le contexte, je vais peut-être pas vous expliquer. En gros, c'est David qui a pris soin des brebis d'un homme. Cet homme, il s'appelle folie ou méchant. Mais cet homme-là a choisi de vivre comme un fou, a choisi de vivre méchamment. Son identité naturelle, il a continué jusqu'au bout. Et on sait que Dieu est intervenu. On a d'autres exemples. Genèse 35-18. Donc c'est Rachel qui meurt à la naissance de Benjamin, donc de son deuxième fils. Et il appelle Ben-Oni. Ça veut dire Ben-Oni, le fils de ma douleur. Mais son père, qui était spirituel, Jacob, il a choisi de ne pas lui donner le fils de la douleur, mais de lui donner Benjamin, c'est le fils de ma droite. J'aime ces identités-là. Nous avons un autre qu'on connaît pas grand-chose de sa vie, c'est 1 Chronique 4, 9 à 10. Jabet était le plus considéré que ce frère, sa mère lui donna le Jabet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites, etc., etc. Et Dieu accorda ce qu'il a demandé. Nous, on a tous des identités naturelles. Jacques avait son identité naturelle de magouilleur, trompeur, etc. Mais il a choisi de vivre en Christ en se saisissant de l'identité que Christ donne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous, on peut aussi se contenter de vivre naturellement. Mais revenons au verset 1, toujours le raccourci. Jacques, virgule, serviteur. Le mot serviteur, ça vient du mot dolos. C'est lui qui se donne, ou souvent à un autre. À un autre, ensuite ça nous parle pour l'avancement du royaume de Dieu. Et le mot dolos vient d'une autre racine qui fait dolon. Et dans le mot dolon, nous avons quelqu'un qui prie. Donc on peut déjà être serviteur de peuple, de quelqu'un, lorsque nous prions pour cette personne ou pour ce peuple. On a des exemples, 1 Samuel chapitre 7 verset 8, il dit à Samuel, ne cesse point de prier pour nous en faveur, pour notre faveur à l'Éternel. Samuel est devenu serviteur. Donc Jacques, serviteur, mais de qui? D'Israël, n'est-ce pas? Israël, son peuple. Israël qui a tué Christ ou son demi-frère. Il a choisi d'être serviteur parce qu'il avait une nouvelle identité. Regardez, Ézéchiel chapitre 3, 17. Fils de Dieu, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. C'est une manière de servir. Nous, dans ce monde, nous sommes comme des sentinelles. Le thème de cette année, c'est la lumière, briller dans la nuit. De Corinthiens 5, 20, nous faisons donc office d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un serviteur d'un pays. Nous représentons Christ. Nous faisons ce ministère que Christ nous a donné. Et là, on arrive, ça c'est juste le raccourci du premier verset. Jacques, serviteur pour le peuple. Et là, ça m'intéresse les versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Là, on va se balader en grec. Le mot « regarder », ça nous parle de « hegiomai ». Ça veut dire « regarder à celui qui nous gouverne ». Considérer, estimer, juger, affecter, tenir, avoir de l'affection, croire. Nous, avec notre nouvelle identité, nous avons cette possibilité de regarder soit aux circonstances, soit à celui qui gouverne notre vie. C'est peut-être pas pour rien que l'apôtre Paul nous dit « marcher par la foi et non par la vue ». Et lorsque nous regardons par la vue, ça me fait penser à vous rappeler l'épisode où il y a le prophète Élisée. Il y a toute l'armée ennemie qui vient dans le pays d'Israël. Et le serviteur d'Élisée, il dit quoi? Il est en train de paniquer. Exactement. Il croit que, non pas qu'il est seul, mais il croit qu'en fait il n'y a que deux face aux ennemis. Et Élisée lui dit quoi? Avec nous il y a plus. Parce que Élisée a regardé à celui qui gouverne sa propre vie. Celui, c'est vraiment marcher par la foi. Et Élisée, comme nous, il a fait quoi Élisée? Il a servi en priant, en disant Seigneur, ouvre-lui les yeux. Seigneur, cette personne a besoin d'être rassurée. Seigneur, cette épreuve, elle est comme Goliath, elle est immense pour ma vie. Mais nous sommes des serviteurs. Et on dit Seigneur, comme on vient de prier pour l'oncle d'Eric, nous sommes des serviteurs. Et j'aime ça, regarder à celui qui gouverne notre vie. Regarder, croire en ses promesses. Prendre vraiment, les promesses de Dieu sont oui et amen. Regardons à celui qui est plus grand que ce monde. Celui qui nous a sauvés, celui qui a donné sa vie, celui qui nous conduit, celui qui nous prépare une place pour nous, celui qui est avec nous, celui que lorsque je traverse les vallées de l'ombre de la mort, il est là. Celui qui prépare une table en face des ennemis. Regardons ces épreuves avec espérance. Et on arrive au deuxième mot qui m'intéresse, c'est joie. Kairos. Être saisi de joie. Ça m'a fait penser, vous savez, à Actes chapitre 5, verset 41. C'est quand Pierre et Jean, ils parlent librement donc de la résurrection de Christ. Et qu'est-ce qu'ils font les pharisiens? Ils le prennent, ils les menacent. Là, on a le conseil de Gamaliel, il dit attention de ne pas combattre contre Dieu. Qu'est-ce qu'ils font pour les décourager? Ils commencent à les maltraiter. Et eux, ils sortent. Soit ils sont fous, soit ils sont vraiment remplis de joie. Les apôtres se rendirent, se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été dignes de subir les outrages de Jésus. Le mot être jugé digne, c'est vraiment un kataxo. Je suis digne. En fait, c'est le mot digne et joie vont ensemble. En d'autres termes, cette joie de ce que le Seigneur me donne est ma force. Néhémie 8, verset 10. Vous vous rappelez qu'à quel moment il y avait ce verset, le contexte de Néhémie 8, verset 10. Ils ont entendu la parole et ils l'ont compris. L'apôtre Pierre et Jean, ils ont regardé à celui qui gouverne les vies. Ils ont regardé à celui qui a donné la victoire. Ils ont regardé aux promesses de Dieu qui sont oui, amen. Ils ont regardé à celui qui est plus grand que ce monde. malgré les souffrances. Et parce qu'ils ont regardé, ça produit un sujet de joie dans son cœur. Je pense à quelqu'un comme Étienne. Je ne l'ai pas noté, mais je pense maintenant. Pourquoi Étienne, il a réussi à prier? Ça marque quoi à la fin de sa vie? Puis, il vit le Fils de Dieu. Il regardait à celui qui est en contrôle sur toutes choses. Il regardait à celui qui tenait sa vie entre ses mains. Regardons, malgré l'épreuve, et cela produit de la joie dans notre cœur. J'ai envie de vous dire, est-ce que quand vous êtes déprimé, ça vous donne envie de chanter? Pas sûr. Et pourtant, vous vous rappelez l'apôtre Paul et Silas, quand ils étaient en prison dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Puis, au milieu de la nuit, Paul et Silas commençaient à chanter. Je suis désolé, quand je suis déprimé, j'ai pas envie de chanter. Et encore moi, je dirais pas, la joie du Seigneur est ma force. Je dirais jamais ça. Et pourtant, c'est possible, au milieu de l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à celui qui gouverne sur ses propres vies. Et c'est pour ça que, comme Paul est dit plus tard, mourir m'est un gain, c'est pas un hasard. Mourir m'est un gain même pour nous. Parce que je regarde à celui qui est ma victoire. Celui qui, wow, comme je disais tout à l'heure, il prépare cette place merveilleuse pour nous. Ah, je suis au deuxième mot. Le mot, donc, les diverses épreuves. Ça, c'est quelque chose que, c'est ce qui m'a touché quand j'ai préparé le message aujourd'hui, parce que je l'ai su aujourd'hui que je vais parler. Le mot diverse, c'est pokilos. Exactement. Les couleurs variées. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser? Pas du tout. Pourquoi pas? Ça m'a fait, regardez, 1 Pierre 4:10, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. C'est exactement le même mot qui est utilisé. Et vous savez ce que j'ai fait, j'ai fait la connexion. En gros, en d'autres termes, c'est une grâce de souffrir pour le royaume de Dieu. C'est bizarre à le dire humainement, mais multicolore. Comme Joseph, d'une manière ou d'une autre, par son manteau, bah, il a souffert. Et il a trouvé quoi? La grâce de Dieu. Ça me fait penser, vous vous rappelez quand Jérémie a été jeté dans la fontaine? J'aime bien les précisions des fois dans la Bible. Oui, dans un puits. C'est un puits. Il n'y avait pas d'eau. Non? Jérémie aussi. Le prophète Jérémie, quand il était dans la cour de la prison, on voulait en gros le supprimer, il a été jeté dans un puits. Qui l'a sauvé, c'est, comment il s'appelle? L'Éthiopien, je sais plus son nom. Qui a été voir le roi en disant, oh roi, il faut le sauver lui. Bien sûr que oui. Bon, on va chercher le passage. Il était embourbé. Là, exactement. Exactement, je vais vous chercher tout de suite. Mais je veux dire par là, c'est que... Ce que je veux dire par là, c'est que... Regardez. Non, on va le chercher. J'aime bien la précision de la parole. Il faut... C'est quel passage? 31, 38, 6. Voilà. Donc, dans l'épreuve, il y a toujours la grâce de Dieu. Le mot diverse, multicouleur, autant dans l'épreuve que dans la grâce de Dieu. Jérémie 31. Exactement. Exact. Ebed-Melek, l'Éthiopien. Ensuite, on va revenir à un autre mot.
Dans l'épreuve, il y a toujours la grâce.
Oui, on voit toujours la grâce de Dieu dans l'épreuve. C'est le même mot diverses, diverses épreuves, diverses grâces. Oui.
Est-ce que c'est quand il a fait une prophétie en disant tu vas mourir et il a dit tu vas rester là?
En tout cas, c'est au milieu, parce que, en fait, le livre de Jérémie, il n'est pas chronologique. Par exemple, entre l'appel de Jérémie, entre la première fois qu'il se présente devant le roi, et ensuite il devait même faire un sacrifice. Donc c'est, il n'est pas dans l'ordre chronologique. Dans le livre de Jérémie, ce qui est surprenant, c'est que t'as les prophéties qui sont regroupées, t'as une partie historique de ce que ça lui est arrivé. Ensuite, ça repart dans les prophéties. Et des fois, t'arrives même à voir le côté historique et prophétie presque en même temps. Par exemple, quand ils mettent un joug sur le cou à Jérémie, c'est le côté historique, ça veut dire qu'on rencontre, mais en même temps, il y a le côté prophétique en disant à cet homme-là, tu vas te cacher, tu vas te fuir d'une pièce à une autre. Donc c'est un peu, les prophéties ne sont pas chroniques. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il faut voir aussi comment ça a été, comment ils l'ont mis dans le livre lui-même, en sachant qu'il a été une fois brûlé. Il a été réécrit, il a été, repris par les écoles aussi, j'ai oublié le mot des écoles. Les écoles, comment? Rabbiniques. Ça a été un peu repris pour le mettre dans le... C'est un peu différent, mais en tout cas, il n'est pas chronologique. Ensuite, donc voilà, diverses couleurs, autant dans l'épreuve que dans la grâce de Dieu. Nous arrivons à un mot qu'on n'aime pas beaucoup, l'épreuve. Je pense qu'il n'y a personne qui aime les épreuves. C'est le mot peirasmos. Mais en fait, j'aime beaucoup le mot en grec, parce que ça nous parle l'épreuve de la fidélité de l'homme, son intégrité, sa vertu et sa constance. J'aime bien les mots. Son intégrité, sa vertu et sa constance. Et ça m'a fait penser direct à un passage, pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est Daniel chapitre 3. Vous vous rappelez, pour vous mettre en contexte, c'est que le roi Nebuchadnezzar, il fait une statue. Tout le monde doit adorer la statue. Il y a les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, que les noms, c'est les noms babyloniens, que eux, ils ne se prosternent pas. Regardez ce qu'il dit au verset 17, Daniel 3, 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente de l'épreuve. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue que tu as fait élever. Le roi se met en colère. On voit au verset 22, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, c'est-à-dire 7 fois plus, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, tellement c'était puissant. Regardez, alors le roi Nebuchadnezzar, non j'aime bien le verset 22, et ces trois hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu de feu trois hommes liés ?» Et il répondit au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, je vois quatre hommes qui marchent au milieu de feu et qui n'ont pas de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Je disais quoi tout à l'heure ? Diverses épreuves, diverses grâces de Dieu. Franchement, je pense que nous, on aime surtout cette partie-là, moi le premier, me voir dans le feu, parce que je sais que Dieu est là. Tu vois ? Si je vois que Dieu est dans le feu et puis qu'il m'appelle, j'ai envie de te dire, oui, j'y vais. Mais ces hommes-là ont choisi, au-delà de l'épreuve, parce que c'était un test, j'ai dit quoi dans le mot épreuve ? J'ai dit sa vertu, son intégrité et sa constance. Ces hommes-là, ils ont la vertu, ils ont une constance. Non, Daniel chapitre 1, on décide de ne pas manger les mets de roi qui déshonore notre Dieu. Daniel chapitre 3, on décide d'adorer notre Dieu. Même si le monde n'est pas content, même si Nebuchadnezzar n'est pas content, ça montre sa constance, la définition, son intégrité, la vertu. Et ils ont trouvé quoi dans l'épreuve ? La présence de Dieu, la grâce merveilleuse de Dieu. Ça me fait penser, vous vous rappelez, quand à cause de son intégrité, un peu plus tard dans Daniel chapitre 6, avec le roi Darius, quand ils ont fait un édit pour ne pas prier, c'est une épreuve. Qu'est-ce que Daniel a fait ? Comme dans son habitude, il a ouvert les fenêtres, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prié. On peut dire, mais Seigneur, il t'a prié tout simplement. Diverses épreuves. Est-ce qu'il a rencontré la grâce de Dieu? La réponse est oui. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur a envoyé son ange. Le Seigneur a envoyé la promesse. Le Seigneur a envoyé la grâce. Le Seigneur a fermé la gueule à ceux qui me menaçaient. Là, dans ce cas, c'était les lions. Lorsque David, il a été dans Samuel chapitre 17, pour amener, pour servir, comme on a vu tout à l'heure, ses frères. Il y avait une épreuve qui était là. L'épreuve, c'est que quelqu'un insulte son Dieu. Et cela a amené de la, peut-être de la colère, ou de la, ça a amené en tout cas des choses dans son cœur, en disant, je vais au combat, au prix de ma vie. Mais je vais pas aller avec des armes naturelles. Je vais aller au combat avec des cailloux. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était une épreuve. Mais il savait que derrière l'épreuve, Dieu était là. Dieu était là. Donc, vous voyez, c'est surprenant comment Jacques amène sa lettre à lui. Parce qu'après, au verset 4-5, il change un peu de sujet. Mais il nous ramène à notre base, la base que Dieu est avec nous. La base que Dieu nous a donné une nouvelle identité. La base que Dieu me donne diverses grâces malgré l'épreuve. Combien de témoignages on a entendu que dans l'épreuve, le Seigneur était là. Dans le deuil, le Seigneur était là. Ah oui, c'était difficile. Ah oui, c'était compliqué. Ah oui, ça a brisé mon cœur. Mais il est là. Et souvent, je ne le sais même pas. Vous vous rappelez quand Jacob, il a fui son frère Ésaü? C'était une épreuve de s'éloigner de sa mère et de son père. En sachant en plus que Ésaü brisait le cœur de Rebecca et d'Isaac. C'était une épreuve, mais il a rencontré la grâce de Dieu. À quel moment qu'on dit dormir? Il dit, l'Éternel était là et je ne le savais même pas. Et nous, voilà, parce que l'épreuve qu'on peut traverser peut même devenir notre identité. Vous avez déjà entendu cette expression, « Ah, dans ma vie, j'ai jamais de chance. Ah, j'ai toujours des accidents qui m'arrivent. » C'est une forme d'identité. Mais Christ nous a tout donné. Oui, nous avons passé, il est là. Oui, l'épreuve, elle est là parce que nous sommes en bataille. On oublie. Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances. Ce sont des choses qui nous dépassent. Lorsque Job a traversé l'épreuve, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours eu la grâce de Dieu. Mais lui, il savait pas. Parce que l'épreuve, si on est tellement concentré, si on oublie de regarder, juste lever un peu les yeux vers le ciel, vers celui qui gouverne notre vie, l'épreuve, en fait, ça nous rend aveugles. Comme le serviteur d'Élisée, c'est une épreuve de se faire envahir par un ennemi. Mais ça l'a rendu aveugle. Et nous, dans notre vie chrétienne, cela peut nous arriver. Et je suis même persuadé que ça nous a déjà arrivé. Moi, je sais qu'il y a une partie, il y a quelques années, j'ai traversé une épreuve qui était vraiment compliquée. Et à tel point qu'en fait, ouais, tu perds courage. Tu dis, mais Seigneur, je lis ta parole, tu me parles des promesses. Et en fait, il n'y a rien qui arrive. Mais Dieu a touché mon cœur, Dieu a travaillé mon cœur pour que je puisse louer, l'adorer pour qui il est. Pas pour ce que j'ai ou ce que j'aimerais. Vous voyez quand David il dit, tu dresses une table en face de mes ennemis, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, en face, dans la bataille, dans le feu, dans l'épreuve, je peux avoir cette communion avec toi. Et c'est ça qui est merveilleux. Et cela est possible lorsque je me souviens de l'identité qu'il m'a donnée, lorsque je me souviens que, voilà, Christ m'a servi. Et par l'épreuve, nous servons également. Je me prends un exemple. Pourquoi l'Église, dans le livre des Actes, elle s'est répandue un peu partout, selon vous? Et c'est quoi la persécution? Une épreuve. Pourquoi c'est un mystère de Dieu? Pourquoi dans les pays les plus, comment dirais-je, les plus difficiles pour les chrétiens, t'as des réveils extraordinaires? L'épreuve. Et peut-être qu'on n'aime pas les épreuves, ça c'est clair et net, moi le premier. Mais peut-être que les épreuves gardent notre cœur en feu. Peut-être que les épreuves nous montrent que finalement, peut-être que l'épreuve c'est un apprentissage pour que nous puissions redevenir dépendants de Dieu. Peut-être que l'épreuve nous garde, comme je disais, oui, dans l'humilité. Peut-être que l'épreuve me pousse à la croix en disant, Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je veux espérer. Seigneur, je veux élever ta parole. Seigneur, je veux croire en toi. Vous savez que le Seigneur dit, si quelqu'un te demande un mille, tu fais un 2000. Vous connaissez pourquoi on dit ça? Avec l'Empire romain, on pouvait prendre quelqu'un. Imaginons que moi je prends Eric, tu devais porter mes bagages pendant 1 kilomètre. Là en réalité c'était un peu plus que mieux, 1 kilomètre. Et le Seigneur dit, fais-en un 2e kilomètre. C'est difficile physiquement. C'est une épreuve. Tu portes les bagages de quelqu'un. Ben là c'est pareil. Ça me fait penser, vous savez, quand les disciples ils pêchent toute la nuit. Sans rien prendre. C'est du boulot. C'est une épreuve. Mais sur ta parole, Seigneur, je le ferai encore. Quand le centurion Marc, chapitre 8, quand le centurion romain vient vers Jésus, parce que son serviteur était malade, il lui dit quoi? Seigneur, juste un mot. Là, l'épreuve, elle est là. Elle est concrète. Elle est dans ma maison. Elle me touche. Mais un mot de ta part, dans l'épreuve. Regardez, je disais tout à l'heure dans la prière, Osée chapitre 2, je t'attire dans le désert. C'est une épreuve. Demeurer dans le désert. C'est une épreuve. Je suis en train de lire actuellement, j'ai commencé donc le Pentateuque. Et, on voit le peuple d'Israël, donc, dans le livre d'Exode. On voit, ils ont vu la grâce de Dieu. Ils ont vu les diverses grâces de Dieu. Mais ils sont restés hermétiques. Ils se sont identifiés à l'épreuve qu'ils traversaient. Ils se sont identifiés à ce qu'ils voyaient. Mais regardez, ce matin je lisais, vous savez, juste avant qu'ils donnent la loi, il y a le mont Sinaï qui est en feu, il y a des éclairs, il y a pas mal de choses. Le peuple, il se tient à l'écart parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que Moïse dit? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui, c'est ça. On n'a pas peur, mais vas-y. Exactement. C'est un peu ça. Mais tout ça pour dire, les épreuves. J'ai envie de vous dire, de nous dire, chérissons-les. Chérissons-les. Aimons-les. Parce que dans l'épreuve, on verra la main de Dieu. Dans l'épreuve, on expérimentera sa présence. Dans l'épreuve, on peut demeurer dans la joie. Et lorsque tu es dans l'épreuve, tu demeures dans la joie, ben les autres ils vont se dire, soit tu es un fou, soit tu as quelque chose de différent. Et la réponse est oui. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes la lumière. Nous sommes une nouvelle identité. C'est fabuleux. C'est comme Jésus face à l'épreuve dans Jean chapitre 17. Il savait que dans peu de jours, il allait mourir. Pourtant, sa joie, c'était quoi? Seigneur, la joie de Jésus. Seigneur, je veux que là où ils sont, là où nous sommes, qu'ils soient eux aussi. C'était la joie du Seigneur. Mais voilà. Je sais qu'au chapitre, qu'au verset 3, le premier chapitre, il y en a 5. Je sais pas où Dieu va conduire, mais je sais que ça va être génial. Et édifiant. Mais je vais conclure. Parce que je veux pas faire plus long. Je veux vraiment que ce soit pertinent. L'épreuve, dans l'épreuve, nous allons voir Dieu. Je vais le répéter. Dans l'épreuve, nous allons voir Dieu. Lorsqu'une église souffre, nous allons voir la main de Dieu. Lorsque nos vies, mais vous savez pourquoi nous allons voir la main de Dieu? Parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous apprend à se dire que notre vie sur cette terre, elle est vraiment une vapeur. C'est pas, elle est importante cette vie sur terre, oui. Mais c'est pas la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Notre vie avec le Seigneur commence lorsque nous partons sur cette terre. C'est génial. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que voilà, regardons vers celui qui gouverne notre vie. On peut se contenter en allumant la télé ou la radio ou en entendre certaines personnes qui nous disent. Alors, pour Dieu, une épreuve n'est autre que l'anticipation d'une victoire. Excellent. C'est ça. C'est ça. L'anticipation de victoire. Ah, oh, j'aime ça. Prenons un exemple. Quelle était la conséquence de l'adoration de Paul et Silas? Quelle était la conséquence de l'adoration de Paul et Silas dans la prison? Conversion. Et sa famille. Quelle était la conséquence lorsque Pierre et Jean sont sortis de chez les pharisiens et les sahédriens? Moi, je vais vous aider parce que cela est difficile. Exactement. Quelle était la conséquence lorsque Étienne priait pour celui qui balançait des cailloux, pour ceux qui lapidaient? Quelle était la conséquence lorsque Joseph a traversé par tout ce qu'il a traversé, sauver sa famille? Quelle était... Exact. Exact. Quelle était la conséquence lorsque Élisée a servi son serviteur et a prié pour lui? Ben, il était rassuré. Vous voyez? Dans l'épreuve, les diverses grâces de Dieu. Comme Pasteur Tony, comme Paul, ils sont malades, ou l'oncle de Eric, dans l'épreuve, ils vont voir Dieu. Et ça, c'est tellement rassurant pour nous. C'est tellement rassurant pour nous. Et il y a énormément d'exemples, mais je ne vais pas dire plus. Et nous, posons-nous cette question. Quel va être le résultat lorsque nous sommes dans l'épreuve? On ne sait pas. Mais Dieu le sait. Mais Dieu le sait. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que la parole, elle est pour nous d'abord. Mais voilà ce qui m'a touché en regardant ça, le mot divers. J'avais déjà entendu Pasteur Texé parler de diverses grâces de Dieu. Et là, j'ai retrouvé le mot divers. J'ai dit, waouh, la connexion, pof. Je vais m'arrêter là. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette portion. Ah, c'est tellement compliqué, naturellement, de chérir les épreuves qu'on traverse, qui nous font mal. Mais Seigneur, on ne veut pas s'identifier à nos douleurs. On veut, Seigneur, comme on disait tout à l'heure, regarder à celui qui gouverne notre vie. Et on va être dans l'émerveillement d'attendre le résultat après que nous avons traversé l'épreuve. Seigneur, je sais que tu es avec nous, que tu es pour nous. Et Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de se dire que oui, tu es là. Même si notre lit est aux portes de l'enfer, tu es là. Tu aimes nous secourir. Et Seigneur, si nous sommes dans l'épreuve, aide-nous à regarder à toi qui gouverne notre vie. Aide-nous à te voir au-delà de l'épreuve. Peut-être de s'arrêter pour se mémoriser, pour se souvenir que tu es Dieu, que tu es en contrôle, que tu es assis sur le trône, de la même manière que tu étais assis sur le trône lorsque ton fils se faisait crucifier. Aide-nous, Seigneur, à persévérer. Aide-nous, Père de gloire. Oui. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à réaliser combien tout ce que nous traversons, de difficile, de moins difficile, c'est pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur, peut-être que dans l'épreuve, on a du mal à être reconnaissant. Aide-nous à voir comme toi tu vois. Béni soit ton nom, Père de gloire. Amen.